Tu connais l'image, j'en suis sûr. On l'a tous immédiatement en tête dès qu'on pense à un vrai bon espresso, non ?
Absolument. Place italienne, soleil, exactement.
Exactement ça. Cette petite piazza inondée de soleil à Naples. Et ce barista charismatique avec un tablier en cuir qui tombe parfaitement, qui abaisse un levier chromé massif d'un geste tout en élégance.
De la vapeur entre-temps.
Oui, la vapeur monte entre-temps et puis ce liquide sirupeux, brun foncé, coule dans une petite tasse préchauffée. Ce moment-là crie littéralement l'émotion, l'artisanat, ce dolce vita ultime.
Exact. Et c'est un récit extrêmement puissant. Qui achète aujourd'hui une machine à espresso premium pour sa propre cuisine n'achète en général pas simplement du matériel. Il achète en fait un ticket pour exactement cet art de vivre méditerranéen.
Les machines ont la plupart du temps des noms italiens incroyablement sonores. Tout le marketing parle de passion, de tradition, et ainsi de suite.
Et c'est exactement à ce point qu'il faut attaquer notre analyse en profondeur d'aujourd'hui. Parce qu'on a là sur la table une pile de documents internes de création, de chartes de marque et de fiches produits. La date cible de ces documents est juste avant le 1er juillet 2026.
Et l'entreprise derrière ces documents prend cette magnifique peinture à l'huile romantique de l'industrie du café, la déchire littéralement en 1000 morceaux et tapisse le mur à la place avec un sobre certificat TÜV.
Exactement. Il s'agit d'une start-up nommée Omaneo GmbH, basée à Neuss. Et notre mission pour ce regard intense dans les sources, c'est de découvrir aujourd'hui comment un fondateur totalement non conventionnel veut casser ce marché fortement romancé et âprement disputé. Et ce, avec une honnêteté radicale et sans fard.
Ce qui soulève tout de suite la question la plus importante, je trouve. Qui monte ce genre d'entreprise au juste ?
Ouais. Quand on regarde les startups dans le café, on s'attend en général à un collectif de torréfacteurs hipsters de Berlin ou à des puristes du design scandinave d'à peine 25 ans. Le cliché de la start-up, quoi.
Mais les documents internes d'Omaneo nous présentent Dieter Heitz. Il a 67 ans, un homme qui a en principe déjà fini sa vie professionnelle et est à la retraite.
J'ai vraiment marqué une pause là, en lisant les sources. J'ai pensé, attends, un homme de 67 ans à la retraite fonde une start-up hardware pour des machines à espresso. Rien que ça, c'est déjà inhabituel. Mais son parcours rend l'affaire encore plus absurde.
Parce que Dieter Heitz n'est pas un ancien champion du monde de barista ou quoi que ce soit. Il était propriétaire et directeur général de Janus.net AG, une pure entreprise B2B dans la tech.
Exact. Ils offraient aux entreprises l'accès à Internet, l'enregistrement de domaines et des choses comme la création de sites web. On parle donc d'un vrai vétéran de la tech, dur à cuire, issu de l'ère des premières infrastructures numériques.
Et c'est important à comprendre, parce que tout son ADN vient de ce secteur business to business. C'est une question de disponibilité serveur, de service level agreements et de fait technique dure. Dans le monde B2B, on n'achète pas des émotions, on achète de la fiabilité.
Et il transpose maintenant cette logique au mot près sur un produit grand public hautement émotionnel.
Impressionnant. Et il ne fait pas ça avec une énorme agence ou une grosse équipe. Les documents révèlent que pour construire Omaneo, Heitz plonge très profondément dans la boîte à outils de l'intelligence artificielle. Il utilise principalement cet outil, Cloud Code, pour automatiser quasiment tous ses processus.
Attends, pour tout ?
Oui. De la création complète du site web, en passant par l'élaboration de l'identité corporate, jusqu'à la recherche de prescriptions d'importation réglementaire d'une complexité folle.
Ok, il faut me rendre ça concret un instant. On a donc un ancien patron tech de 67 ans qui, le soir, ne s'assied pas à la table avec une quelconque agence marketing. Il s'assied devant son ordinateur et pilote une IA via une ligne de commande.
Exactement ça. Et quand on importe des appareils électriques asiatiques, ce n'est pas un effet secondaire, c'est le levier.
C'est vraiment fascinant, mais cela soulève immédiatement, pour moi, le plus gros problème de tout ce modèle économique. Le gigantesque éléphant dans la pièce, si tu veux. L'origine asiatique.
Oui, Il importe les machines depuis l'Asie. C'est un énorme point de conflit, sans aucun doute. La cible visée par Omaneo, ce sont des acheteurs entre 35 et 65 ans dans la zone germanophone. Des gens tout à fait prêts à mettre une belle somme sur la table pour le plaisir du café.
Mais ces gens-là, sur le terrain de l'espresso, exigent absolument ce label « Made in Italy ». Ou si on parle vraiment de précision technique, au minimum « Made in Germany ».
Si tu dis à cette clientèle vraiment passionnée de technique que la pièce maîtresse de leur cérémonie matinale du café adoré vient de Chine ou d'Asie en général, alors le tiroir mental étiqueté « production de masse bon marché » s'ouvre instantanément.
Bien sûr, le réflexe est là. Je veux dire, ce type de passionné d'espresso qui caresse amoureusement son groupe d'extraction italien E61 le matin. Pour cette cible, un import asiatique doit ressembler à essayer de vendre à un Français un vin rouge britannique comme produit premium.
Belle comparaison. Comment dissout-on cet énorme stigmate alors ?
Eh bien, ce qui est extrêmement fascinant ici, la tactique habituelle du secteur, ce serait la dissimulation. On invente un nom qui sonne comme un petit village romantique de Toscane.
Exact. Et on imprime « Designed in Germany » en énorme sur le carton.
Exact. Et on espère simplement que personne ne demande où les cartes électroniques ont vraiment été soudées. Mais Heitz choisit le chemin exactement opposé. Il fait de l'origine le cœur absolu de sa communication transparente.
Sa devise est tout simplement « Nous disons ce que nous pensons et nous faisons ce que nous disons ».
Ouf, c'est un ancrage de valeur extrêmement à l'ancienne. Ce classique « un homme, une parole ».
Oui, et c'est l'antithèse ultime du jargon marketing actuel. Dans les documents, il communique très clairement que les machines sont fabriquées en Asie. Et ce, pour la simple raison que du matériel de premier ordre y est désormais produit à des conditions abordables.
Ok, mais comment se prémunit-il contre les craintes sur la qualité ?
Il promet que chaque machine qui arrive d'Asie est physiquement contrôlée ici en Allemagne avant d'être livrée au client final.
Ah, il joue donc en quelque sorte le rôle de videur pour la qualité.
Exact. Il dit en gros à ses clients, « Je sais que vous êtes extrêmement sceptique face aux imports asiatiques. Vous devez l'être. Et c'est pour cela que je prends ce risque entièrement à votre place. Chaque machine passe entre mes mains. »
Et cette philosophie d'une honnêteté presque douloureuse traverse chaque petite nuance de la communication de marque. Omaneo s'interdit tout ce que nous comprenons aujourd'hui comme du marketing moderne. C'est un concept anti-marketing.
Absolument. Les directives internes se lisent comme un manifeste contre l'industrie de la publicité. Il y a des interdictions de vocabulaire strictes. Par exemple, le mot « AI » ne doit pas être utilisé, il faut dire « KI », parce qu'on veut réduire les anglicismes. Et puis des phrases comme « meilleur espresso du monde » ou « révolutionnaire » ou « avant-gardiste » sont tout simplement strictement bannies.
Et toute allusion visuelle ou textuelle à ce fameux Dolce Vita est absolument tabou.
Donc, pas de Vespa à l'arrière-plan ?
Pas de Vespa. Pas de tour penché de Pise. Les photos publicitaires doivent juste montrer le produit. Point.
On voit ici vraiment très nettement cet esprit d'ingénieur. Tout ce qui ne peut pas être prouvé par des spécifications techniques dures relève chez lui du bullshit.
Les documents vont jusqu'à dire qu'il signe personnellement chaque newsletter et chaque mail de service. Il évite la formule pourtant tout à fait habituelle du secteur. Ton équipe Omaneo. Et signe franchement Dieter Heitz, fondateur Omaneo GmbH.
Cela dit, sur le plan psychologique, ça a totalement du sens. Si tu veux surmonter le scepticisme face à un produit d'import, tu ne peux pas te cacher derrière une façade d'entreprise anonyme. Le client a besoin de quelqu'un qu'il peut symboliquement attraper par le col si la machine cale au bout de 3 semaines.
Tout à fait. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette obsession du détail dans les directives m'a quand même un peu irrité à la lecture. Par exemple, il est défini pédantesquement que les clients B2B sont toujours vouvoyés, mais que les clients finaux reçoivent un tutoiement professionnel.
Mais le branding visuel, la marque verbale Omaneo, ne peut être écrite qu'en minuscules. La police doit impérativement être Playfair Display. Et en dessous, Espresso, doit figurer en Helvetica Bold, en bloc.
Ah oui, le ton bronze. La couleur primaire est un ton bronze fixé sur un code hexa exact. Et le O, en minuscule, dans le logo, ne peut sous aucun prétexte être modifié graphiquement. Donc pas de petits grains de café à l'intérieur, pas de loupe, rien. Strictement selon la directive.
Quand j'ai lu ça, j'ai vraiment pensé un instant. Est-ce que ce monsieur vend maintenant des baies serveurs pour data center ou une machine pour le plaisir du café? Tout cela paraît terriblement sans joie.
Disons que la joie au sens d'animation publicitaire bigarrée n'est tout simplement pas l'objectif ici. Si on relie ça à la grande image, cette approche obsédée par le détail et totalement sobre est un filtre hautement intelligent.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
La cible d'Omaneo dispose en général d'un budget convenable, vit peut-être dans un bel appartement en propriété et attache une importance extrême à la qualité. Et ces gens-là sont bombardés chaque jour de promesses publicitaires bruyantes et colorées. Ils sont devenus totalement immunisés contre le centième moment café parfait de ta vie sur Instagram.
C'est vrai.
Aids répond à cette lassitude publicitaire par la philosophie, la substance plutôt que le clinquant. La rigueur du design signale inconsciemment « Ici, nous n'avons pas le temps de jouer, nous nous concentrons à 100% sur le produit. »
Et j'ai trouvé un exemple fantastique de cet amour presque entêté des faits dans les règles de communication technique. Il y a la prescription stricte, selon laquelle, dans tous les textes, Omaneo ne doit parler que de 3000 watts de puissance.
Mais les données internes montrent que la machine a une puissance permanente certifiée TUV de 2800 watts. Les 3000 watts ne sont que la puissance crête de courte durée. Dans le monde publicitaire normal, 99% des fabricants prendraient les deux chiffres pour en faire un slogan, jusqu'à 3000 watts de puissance, imprimé avec un point d'exclamation sur le carton.
Mais Aids l'interdit. Ces notes disent en substance « Une double indication de wattage ne fait que troubler le client. Nous communiquons uniquement la valeur maximale de 3000 watts comme point de référence fixe, et ce, sans aucun texte en astérisque. »
Il élimine les caractères en bas de page. Dans son monde, les textes en astérisque ne sont rien d'autre que des restrictions défensives qui sapent immédiatement la confiance.
Une autre règle intéressante précise d'ailleurs que les promesses publicitaires ne doivent porter que sur des fonctionnalités effectivement intégrées sans exception dans chaque variante de livraison de la machine.
Ah, ok. Donc s'il existe une édition spéciale avec de belles poignées en noyer, ce modèle précis ne peut pas devenir la photo d'accroche de la campagne publicitaire générale. Dans ses notes, Aids appelle cela littéralement un mensonge de marque. Il s'oblige, lui et son entreprise, à traiter le client comme un adulte intelligent.
Dément. Bon, on a compris qu'on a affaire ici à un vétéran B2B profondément détendu, mais extrêmement discipliné, qui veut convaincre le marché par une transparence nue. Mais, et c'est un grand mais, la meilleure philosophie de marque s'effondre dès que le produit sur le plan de travail de la cuisine ne vaut rien.
Alors, parlons du produit phare d'Omaneo. La machine qui doit tenir face à tous ses principes. Et déjà, rien qu'avec le nom, je suis obligé de rire. Parce qu'on ne parle pas ici de la Lamarzocco Linea Micra, ni de la Victoria Arduino ou de la Bezerra. Le porte-étendard de cette entreprise s'appelle Omaneo.Gudrun et c'est écrit en majuscule et lié de manière indissociable à la marque verbale par le point.
Oui, une rupture totale avec toute convention. Mais sérieusement, pourquoi Gudrun? Pour moi, ça sonne comme un goûter café des années 80 chez ma tante avec du café filtre, et certainement pas comme un espresso haut de gamme pour lequel je règle la mouture au micromètre près.
Eh bien, le choix est stratégiquement brillant, justement parce qu'il paraît si gauche au premier regard. Les documents expliquent ce concept de nommage avec une grande précision. Il s'agit d'utiliser sciemment des prénoms féminins allemands d'une génération bien précise.
Ok, et quel est l'ancrage psychologique là-dedans?
L'encre, ce n'est pas l'espresso en soi. c'est le sentiment de fiabilité. Un nom italien crée l'illusion de petites vacances. Le nom Gudrun, lui, crée l'association de la tradition. D'une époque où les choses étaient encore littéralement faites pour l'éternité. Les documents internes résument cela avec l'idée directrice, comme chez maman. Donc pas de cool surjoué, mais une qualité honnête, solide comme un roc.
Ok, ça se tient. Alors mettons-nous à regarder sous le capot de cette Gudrun solide. Parce qu'avec les spécifications techniques, j'étais par moments vraiment dépassé à la lecture.
Alors, décortiquons. La machine arrive sur le marché à 799 €. Jusque-là, tout va bien. Mais les documents soulignent avec 3 points d'exclamation qu'il ne s'agit explicitement pas d'un double chaudière. Ce terme ne doit jamais apparaître dans la communication, parce qu'il serait techniquement faux. À la place, la machine est décrite comme un système à 2 circuits avec 3 sous-systèmes de chauffe.
On a donc ici un contrôle de température PID, un écran tactile et carrément 2 pompes. Une pompe principale Ulca à 15 bars et une pompe secondaire à 5 bars. À cela s'ajoute un groupe d'extraction E61 classique, un imposant réservoir d'eau de 2 litres, et l'ensemble pèse 12 visiane 5 kg brutto.
Aide-moi à traverser la jungle technique un instant. Quelle est exactement la différence entre une double chaudière et ce système? Et pourquoi est-ce si important en fait?
C'est le cœur de l'innovation technique qu'Omaneo importe ici d'Asie. Un double chaudière classique a, comme son nom l'indique, 2 grandes chaudières d'eau physique intégrées à la machine. Une chaudière pour l'eau de percolation du café et une pour la vapeur destinée à faire mousser le lait.
Ok, logique.
Mais les 2 chaudières doivent être chauffées avec un coût énergétique énorme et maintenues ensuite à température. En pratique, ça prend souvent 20 à 30 minutes avant qu'une telle machine soit même prête à l'emploi.
Ce qui est évidemment extrêmement pénible le matin.
Exact. La Gudrun utilise un autre concept. En tant que système à 2 circuits, elle sépare bien les circuits vapeur et eau de percolation, mais sans 2 énormes chaudières d'eau. À la place, elle utilise un système intelligent de chauffe-eau instantanée et de thermobloc compact. Ce sont les 3 sous-systèmes de chauffe évoqués plus haut.
Donc concrètement, l'eau n'est pas chauffée à l'avance. Elle est chauffée exactement au moment où elle est pompée à travers le système.
Tout à fait précis. Et l'énorme avantage de cette architecture, c'est simplement la rapidité. Les documents indiquent que la Gudrun est techniquement entièrement chauffée en moins de 2 minutes.
Waouh, moins de 2 minutes. Cela dit, là encore, Heitz laisse percer son honnêteté radicale. Car la communication le dit très clairement. Oui, les systèmes de chauffe sont chauds après 2 minutes. Mais pour l'espresso optimal et thermiquement parfait, le client est prié de laisser à la machine 8 minutes afin que le matériel pesant 1 kg, c'est-à-dire tout le métal massif du groupe d'extraction E61, soit complètement réchauffé.
Il renonce donc sciemment au succès publicitaire facile de la « machine en 2 minutes » pour éviter de fausses attentes sur le goût.
Exactement. Et pour répondre à ta question sur les pompes, le fait qu'il y ait 2 pompes intégrées dans cette gamme de prix résout un énorme problème de beaucoup de machines moins chères.
Quel problème?
Eh bien, quand une seule pompe doit à la fois monter la pression pour le groupe d'extraction et envoyer en parallèle de l'eau dans le circuit vapeur, on obtient inévitablement des fluctuations de pression. L'espresso s'extrait alors de façon inégale.
Ah, je vois.
Mais comme la Gudrun utilise une grosse pompe 15 bars exclusivement pour l'écoulement de l'espresso et une pompe 5 bars plus petite pour piloter les systèmes secondaires, la pression sur la galette de café reste absolument stable. C'est du vrai travail d'ingénieur qui se perçoit directement dans la tasse.
Ok, tout cela paraît fantastique. Mais attends, il faut que j'intervienne sérieusement.
Vas-y.
On parle de contrôle PID, où je peux programmer la température au degré près. On parle de circuits séparés pour percoler et faire mousser le lait en même temps, de pompes dédiées et d'un écran tactile. Quand je regarde le marché des machines à espresso, Je trouve d'habitude cette combinaison de fonctions sur des appareils entre 1500 et 3000 euros. Omaneo demande ici 799 euros. Ce prix n'est-il pas presque dangereux à l'inverse?
Cela soulève une question extrêmement importante, parce que c'est comme si on te proposait une voiture de sport flambant neuve, toutes options, au prix d'une petite citadine d'occasion. Tu ne sautes pas dessus à l'aveugle. Tu te mets instinctivement à chercher l'arnaque.
La cible ne se dit-elle pas tout de suite? Ah, ils ont forcément économisé sur les vannes ou l'électronique.
Absolument. Ce scepticisme est même le plus gros obstacle à l'entrée sur le marché. Les documents appellent littéralement ce phénomène le choc de prix dans le segment premium. Heitz sait parfaitement que 799 euros pour ces spécifications pourraient passer pour presque suspectement bon marché.
Et c'est précisément pour cela que sa stratégie ne fonctionne que par l'interaction de tous les facteurs qu'on a vus jusqu'ici. Son vrai facteur différenciant, ce n'est pas la pompe en soie ou l'écran tactile, c'est ce point de contact tangible en Allemagne.
Ah, ok. Il absorbe donc ce scepticisme par la confiance en sa propre personne et son propre contrôle qualité.
Tout à fait. L'argument face au client est d'une logique imparable. Le marché asiatique pour ses composants a énormément progressé. La production est devenue moins chère. Heitz transmet cet avantage prix directement, sans ajouter la marge de luxe habituelle de 50% pour un quelconque nom de marque italien. Le client achète le matériel au juste prix, et Heitz, avec son propre nom à Neuss, se porte garant que la machine fonctionnera des années.
Ce qui nous amène en gros à la phase d'après l'achat. Parce que Dieter Heitz, manifestement, ne vend pas simplement un carton de 12 kilos en souhaitant ensuite au client bonne route, n'est-ce pas?
Non, pas du tout. Quand on regarde les documents de fondation, il construit autour de la Gudrun un écosystème de baristas extrêmement serré. Et cela évoque vraiment puissamment, à nouveau, son passé dans le secteur tech B2B.
Dans le B2B, on appelle ça un service level agreement. Tu ne vends pas seulement un serveur à une entreprise, tu lui garantis aussi contractuellement que ce serveur tourne 99% du temps.
Exact. Et s'il tombe quand même en panne, un technicien est devant la porte dans les 2 heures. Heitz transpose exactement cette logique à Omaneo. Parce que le principal problème des imports asiatiques directs, c'est justement ce fameux désert de service.
Une vanne se déchire, une carte électronique grille, et tout d'un coup, tu n'arrives plus à joindre personne.
Exact. Ou tu dois attendre 6 semaines une pièce détachée venue de Shenzhen, qui finit coincée quelque part en douane.
Oh oui, un cauchemar. Et Omaneo se positionne ici totalement à l'opposé. La promesse, mot pour mot, les clients ne sont jamais laissés sous la pluie.
Il y a une assistance directe par téléphone et email directement depuis l'Allemagne. Et surtout, un stock de pièces détachées sur place pour garantir des réparations très rapides. C'est la ceinture de sécurité absolue pour la cible.
Mais l'écosystème va beaucoup plus loin. Il englobe aussi tous les accessoires nécessaires, comme le disent les sources, pour faire soi-même un bon espresso. Heitz sait évidemment que la meilleure machine du monde ne produit qu'un café affreux, si le moulin à côté ne vaut rien, ou si la mouture n'est pas tassée au bon angle.
Et sur ses accessoires aussi, il pratique une politique de prix très agressive mais transparente. Les documents mentionnent par exemple un moulin avec des meules de 64 imanades pour le single dosing, c'est-à-dire la mouture au gramme près de portions individuelles.
Exact. Et il coûte 349 euros. En alternative, il y a un moulin classique avec un grand réservoir à grains de 750 grammes à 199 euros. Puis, un tempère à ressort qui décharge l'utilisateur de la recherche de la pression parfaite de tassage pour à peine 40 euros. Et des balances de barista haute précision pour environ 25 euros.
Donc, quand on assemble tous ces morceaux de puzzle, Heitz construit en fait ici un guichet unique pour les passionnés de café au budget mesuré. Il ne veut pas seulement vendre la machine, il veut contrôler toute l'expérience barista. Le client n'a en somme plus jamais besoin de quitter Omaneo. C'est presque comme chez Apple, juste pour les grains de café.
La comparaison colle très bien. Il livre ici 3 piliers déterminants. Premièrement, le matériel, la Gudrun et les moulins. Deuxièmement, le filet de sécurité via le support allemand et le stock local de pièces détachées. Et troisièmement,
la formation. Les documents montrent qu'Omaneo crée aussi son propre magazine en ligne et un blog pour transmettre le savoir sur l'extraction, les degrés de mouture et les torréfactions. C'est du community building, par excellence.
Cette trinité touche exactement les points de douleur des gens qui veulent se lancer dans l'espresso, mais qui se faisaient jusqu'ici rebuter par l'énorme complexité et les prix astronomiques des fabricants classiques.
Et pour boucler l'ensemble du package, ils mettent en place dans la boutique tout un tas de petits signaux de confiance profondément ancrés dans l'âme du consommateur allemand.
Qu'est-ce que tu veux dire précisément ?
L'achat sur facture, par exemple, c'est toujours une énorme marque de confiance d'un commerçant envers ses clients. À cela s'ajoutent des choses comme le chiffrement SSL de la boutique, 10 euros de remise newsletter, l'expédition neutre en CO2 via DHL Go Green et un emballage 100% sans plastique. Donc pas de polystyrène, pas de film plastique, uniquement des matériaux entièrement recyclables. Et les documents disent à ce sujet, mot pour mot, ce n'est pas du marketing, c'est une posture.
Ce qui nous ramène directement à son principe central, pas de formule creuse. Quand Omaneo expédie de manière écologique, ce n'est pas pour coller un joli badge vert sur le site, c'est parce que c'est la décision rationnellement correcte.
Exact. Et c'est justement cette profonde cohérence qui finit par transformer un simple négoce d'import en une marque disruptive sérieuse.
Résumons ce blueprint incroyable d'entrée sur le marché. Un vétéran de la tech de 67 ans, issu du B2B, utilise des outils d'IA pour s'introduire à la retraite dans un segment totalement nouveau. Il regarde ce marché élitiste de l'espresso, gorgé de romantisme italien et de superlatifs marketing, et décide tout simplement d'ignorer toutes ces règles.
Il mise à la place sur du matériel asiatique de pointe à 799 euros, le combine à une franchise allemande radicale, presque sans humour, et à un écosystème de services sans faille. Pas de wattage caché, pas de bullshit bingo, simplement des faits.
Exactement. Et il appelle la pièce maîtresse de toute cette opération, on ne peut plus sérieusement, Gudrun.
C'est une expérience absolument fascinante. Il prend ce qui est potentiellement le plus gros point faible de son modèle, l'origine asiatique des machines, et, par une transparence sans pitié et la prise de responsabilité personnelle, il en fait son argument de vente le plus fort.
Ce regard derrière les coulisses, bien avant que la marque ne voie le jour en juillet 2026, nous montre aujourd'hui combien un changement radical de perspective peut être puissant.
Et cela m'amène à une question que tu pourras te poser toi-même après cette analyse en profondeur. On voit ici quelqu'un essayer de redéfinir entièrement une expérience lifestyle extrêmement émotionnelle, souvent largement surévaluée. L'espresso à la maison. Et ce, purement par des principes tech rationnels, une logique de service B2B et le refus total des clichés publicitaires classiques.
Si cette approche fonctionne vraiment pour les machines à café, quelles autres industries lifestyle, totalement surromantisées dans notre quotidien, réclament aujourd'hui aussi fort exactement ce genre de disruption sans humour et honnête?
Une pensée qu'on peut superbement prolonger pour soi-même devant la prochaine tasse de café. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour ce regard intensif dans les sources. À la prochaine.